Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. En route, le libraire et liberté. Au programme, la suite de le top 10 des meilleurs nouveaux restaurants canadiens. Le choix de Samiane et venir au monde. Bonne écoute.
Vous écoutez le top 10 des meilleurs nouveaux restaurants canadiens, un texte de Nancy Matsumoto, paru le 1er novembre 2022 dans le magazine En route. Numéro 6. Hearts Tavern and Bar, Kimberley, Ontario. Cette superbe taverne de bord de route partage son ADN avec ses frères et sœurs, l'Union et le Côte de Bœuf de Toronto, mais tout y respire la campagne. Tandis que nous marmonnons notre joie devant notre assiette de soyeux saumon fumé maison, sur baguette, garnie de raiforts râpés et de jalapeños marinés, notre serveur barbu et chaussé de Chuck Taylor nous révèle le secret de fabrication du beurre de culture couleur jais au goût marin qui l'accompagne. On le sale pour freiner la fermentation, puis on ajoute l'encre de sèche. Nos soupçons se confirment. Cette taverne rétro de bord de route a beau être au cœur de la Beaver Valley, du comté de Grey, nous avons bien quitté l'Ontario rural. L'endroit où nous nous trouvons a plutôt à voir avec un chalet suisse, dont le vieux plancher et les poutres luisent à la lumière des bougies, où des pièces de bœuf pendent près de bocaux de noix et de cornichons marinés. Sur un comptoir, un gâteau au fromage, tout juste sorti du four, fait le beau dans son présentoir. L'éclairage aux reflets de miel, la cave à vin aux murs de pierre, à la longue table en bois et aux rideaux de velours rouge, tout évoque un refuge montagnard patiné par le temps, au foyer duquel des générations de cuisiniers se sont succédés. En réalité, il s'agit de la dernière création de l'équipe des Restos torontois Union et Côte de Bœuf qui a transposé son amour d'une cuisine simple et bien faite à la campagne, 150 kilomètres au nord. Sa vision de l'hospitalité rurale, très réussie, en est une de chaleur et de petits détails. Mais ce qui sauve le Hearts du trop beau pour être vrai, ce sont ses plats, assez délectables pour figurer à votre palmarès des lieux où prendre votre dernier repas. Puisque vous êtes toujours de ce monde, optez pour le steak grillé, séché à l'air libre pendant 60 jours, ou le poulet rôti demi-glace, élevé par un certain Gus, avec un verre ou deux d'un cru nature européen, comme ce Zibibo Abir 2021, un Sicilien sur lit aux intenses notes de pamplemousse. Pour rentrer chez vous, réglez votre GPS interne sur Amérique du Nord pour ne pas vous perdre dans le noir. On admire la rue principale de Kimberley, Grey County Road 13, pour ses demeures patrimoniales restaurées et sa vue des falaises d'Old Baldy. Numéro 7. Fonda Balam, Toronto, Ontario. Les chefs Kate Cromichin et Julio Guajardo assaisonne bien les tacos et autres birria dans ce resto mexicain branché. Les bras abondamment tatoués de notre serveur émergent d'un T-shirt de Saint-Valentin des Simpsons au slogan dont l'humour se perd à la traduction. Sur fond de briques de verre rétro, de lampes hublot pastel et de crânes de taureau perlés, trois développeuses web nous informent qu'il n'est pas nécessaire de prendre les trois salsas d'accompagnement. Deux sont servies avec la quesabirria. Dans la salle, des duos mère-enfant se régalent de cocktails de crevettes et, dans un coin, un homme à la moustache Fu Manchu et aux lunettes rondes en écaille étudie le menu. Assez parlé de l'échantillon bigarré des gourmands torontois qui fréquentent ce bistrot aux briques blanches de Dundas West et dont l'équipe comprend le restaurateur en série Matty Matheson et les époux Kate Chomichin et Julio Guajardo, qui ont ouvert le Quetzal avec Grant Van Gameren en 2018. Ce qui compte, c'est la préparation soignée de mets de cuisine de rue mexicaine si addictifs qu'il vous faudra peut-être suivre une cure de désintox. Dans un bol en verre à pied, le cocktail de camarones est un cocktail de crevettes coiffées d'avocats et baignant dans une sauce clamato épicée. La fameuse quesabirria con consomme, deux tortillas de maïs farcies de macreuse et de poitrine de bœuf braisées pendant 5 heures, deux fromages et d'aromates grillés jusqu'à ce que les bords soient croustillants et qu'on trempe dans un consommé, vole ici la vedette. Ne consultez pas Instagram en mangeant. De la graisse de bœuf orange fluo pourrait bien ruisseler sur vos poignets. Tant de talent en cuisine fait que nous sommes ravis d'avoir commandé le tendre gâteau aux trois laits avec fraises et crémeux, vanille et chocolat blanc. Mais notre insatiable trio de développeuses web, déjà remis en route, laissant derrière trésor pas encore goûté. On savoure le généreux cocktail des camarones, crevettes nordiques, concombres, oignons rouges, jalapeños, avocats et sauce clamato épicée maison. Vous écoutez le top 10 des meilleurs nouveaux restaurants canadiens, un texte de Nancy Matsumoto, paru le 1er novembre 2022 dans le magazine En route. Numéro 8. Major Tom, Calgary, Alberta. 40 étages au-dessus du centre-ville de Calgary, le Major Tom est un grill somptueux et moderne. Aller au Major Tom, c'est un peu comme monter à bord d'une fusée solaire dernier cri pour rejoindre une lointaine galaxie et manger un bon steak albertain. Notre odyssée de l'espace débute dans le Stephen Avenue Place, au centre-ville de Calgary, où l'ascenseur express nous propulse au 40e étage. La salle à manger rutilante de 198 places, surplombant la prairie, embrasse le paysage. Le spectacle est si grandiose qu'on pourrait à tout jamais arpenter la pièce pour boire le panorama. On peut, sinon, digérer la vision de l'agence Frank Architecture, un vaisseau spatial luxueux de la fin des années 1960 aux accents bois foncé, cuir et bronze, dont Truman Capote, bon vivant à l'intelligence redoutable, est l'inspiration. Son jumeau spirituel, un serveur dandy en short, flâneur et cravate bleue, se faufilent entre les tables. Les cocktails sont si bons qu'on oublie toute peur des hauteurs, originaux du Major Tom, reprises de classiques et, pour les cadets de l'espace adultes, rasade de jello à l'hibiscus à base de vin rouge hongrois à fermentation naturelle. Nous nous régalons d'une fraîche salade de betterave jaune, cheddar fumé, réfort, vinaigrette au pignon, puis d'une délicieuse côte de bœuf de coupe anglaise Alberta Prime, nul besoin de suppléments protéinés. Au Major Tom, on a peut-être la tête dans les nuages, mais l'approvisionnement, lui, est terre à terre. Auprès de fermes et de ranchs triés sur le volet, dans le terroir provincial, 40 étages plus bas. Impossible d'oublier le parfum envoûtant de la bergamote dans la mousse à l'Earl Grey de la verrine London Fog. Voilà une autre preuve que le Major Tom a gagné ses galons. On s'émerveille en arpentant la vaste salle à manger. Numéro 9. Fox and Monocle, North Sahanic, Colombie-Britannique. La cuisine est raffinée comme un monocle et aussi subtile que le renard qui l'arbore dans ce resto-boulangerie riverain. Quelque chose monte dans la paisible anse canoë de North Sahanic et ce n'est pas la marée. Dans un café de bord de mer, sans cachet architectural, une simple boîte, si modeste qu'il faut en faire le tour à l'extérieur pour trouver les toilettes, les chefs et époux, Ross Bowles et Tracy Zahavik, signent un menu qui s'inspire de la cuisine européenne moderne. Raffiné, réconfortant et respectueux de la tradition. Le dépouillement style shaker de sa salle, avec ustensiles de cuisine anciens comme décoration, ne reflète en rien le pedigree en cuisine. M. Bowles a été sous-chef de Rob Castles au Saveur de Victoria et chef de cuisine au River Café de Calgary. Il a rencontré sa douce à Londres quand celle-ci, compatriote albertaine, était demi-chef de partie pâtisserie et donc sa supérieure aux 3 étoiles Michelin de Gordon Ramsay. Le pédigree de monsieur est évident dans son plat de crevettes tachées, du cru, dodues, sucrées et super fraîches, sur lit de poivrons rouges rôtis et servies avec croûtons de polenta. Une seule bouchée de cette symphonie veloutée d'umami salin et de croquant donne envie de le suivre au bout du monde. Idem pour les desserts de madame, qui vont d'un ingénieux assemblage de pâtes brisées, de pralinées aux noisettes et d'une barre de parfait au chocolat au fouillis ravigotant d'un Eton Mess. Raffiné et réconfortant. C'est la méthode Fox and Monocle. Elle est la renarde et lui, avec sa curiosité inépuisable, le monocle. Ensemble, ils sont prêts à conquérir la gastronomie. On goûte ce que prépare aussi Tracy Zahavik pour son café-boulangerie, ouvert en journée. Numéro 10. Restaurant Alentour, Québec, Québec. Les descriptions du plat et du vin que fait notre serveur barbu en tablier sont si détaillées qu'après une bouchée de notre salade crémeuse, croquante et acidulée de pois jaunes cuits et frits, nappés d'une vinaigrette concombre, aneth et ciboulette, nous avons l'impression de connaître le fermier bio Rastafari qui a cultivé les cucurbitacées. C'est en travaillant au Blue Hill de New York et au Relay de Copenhague que Tim Moroney a adopté des principes de restauration durable et d'achat local. Le caractère méditatif de son resto de quartier, tout de bois vêtu, de Québec, est un clin d'œil à ses établissements jusqu'au tiroir à ustensiles de style relay des tables. Seuls des ingrédients provenant d'un rayon de 150 km entrent dans la cuisine du chef. Sel, levure, lait et crème de production responsable font exception. Il a donc troqué huile d'olive aux propriétés émulsifiantes pour une polenta de pois jaune dans la vinaigrette et soumis les concombres à la lactofermentation pour préserver leur vivacité. Il ne s'agit pas de culpabiliser les gourmands à forte empreinte carbone, mais de célébrer joyeusement et soigneusement les produits de saison des champs et des fermes des alentours. Un plat de pommes de terre et céleri rave avec fraîche salsa de jalapeño séchée et marinée et beurre nantais au bouillon d'épis de maïs caramélisé ouvre de nouvelles perspectives végétales. Les accords facultatifs de vins et cidres, un Saint-Pépin 2020 au nez de miel et de fleurs jaunes du domaine Le Grand Saint-Charles, avec la salade, et un Chardonnay réserve au nez de coin et de beurre du vignoble Camille avec les pommes de terre, font aussi chanter le terroir québécois. Cette tournée des alentours n'a rien d'une pénitence. Elle est pure partie de plaisir, où nécessité fait délicieuse loi et où la restauration durable fait un bond en avant réfléchi. La ville de Québec et ses fournisseurs extramuros ne s'en portent que mieux. On saisit l'occasion de connaître de long en large les producteurs du cru. L'équipe s'y emploiera avec bonheur. C'était le top 10 des meilleurs nouveaux restaurants canadiens, un texte de Nancy Matsumoto, paru le 1er novembre 2022 dans le magazine En route.
Le choix de Samiane. Un texte de Samiane, paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue Les Libraires. Ici n'est plus ici. Tommy Orange, traduction Stéphane Roch, le livre de poche. Ici n'est plus ici est un des romans qui m'a le plus fasciné. C'est magnifique, moderne, tellement bien écrit. Dans ce livre choral, on découvre l'histoire des Premières Nations à travers des jeunes qui recherchent leurs origines, leurs descendants autochtones, pour mieux comprendre leur identité. L'histoire culmine à un grand power à Oakland, alors que les 12 personnages du roman s'y retrouvent. Ce roman est vraiment une belle façon de présenter les peuples des Premières Nations d'aujourd'hui et ce qu'ils vivent en 2021. Même si ce roman est signé par un auteur autochtone américain, le tout trouve écho chez les Autochtones du Québec, car il n'y a pas de frontière. Entre une communauté du Québec ou une des États-Unis, c'est exactement la même réalité pour la population autochtone en milieu urbain qui se cherche. Membre de la Première Nation Attibitiwini, Samuel Tremblay, est né en 1983 à Amos. Rappeur, il propage une parole engagée pour les peuples des Premières Nations en français et en algonquin. En 2015, paraissait chez Mémoire d'Encrier « La plume d'aigle », recueil qui allie poésie et prise de position. C'était « Le choix de Samiane », un texte de Samiane, paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les Libraires ».
Venir au monde, un texte de la rédaction paru à l'hiver 2023 dans le numéro 337 de la revue Liberté. La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. Baudelaire. Figure classique de l'autorité, Le riche remplace le politicien qui avait remplacé l'évêque. En tout cas, un homme puissant, régulièrement, fait une déclaration médiatique tonitruante à propos des naissances. Faites moins de bébés. Faites-en plus. Allez, un petit effort pour la patrie, pour la capitale, pour l'espèce. C'est toujours bon pour soigner une image de vainqueur, de traiter du sujet délicat de la naissance avec fermeté, sans hésitation, puisque le savoir appartient aux victorieux et aux gestionnaires. C'est encore mieux si, en même temps que vous forcez quelque chose, vous faites mine d'interdire autre chose. Obligez les unes à donner naissance et l'interdire aux autres. Surtout, obligez les unes et les autres à se soumettre. Qu'il y ait naissance ou pas, ce qui compte, c'est qu'elles abdiquent. Dans tous les cas, il faut se montrer intraitable, rationnel, au-dessus du corps et des sentiments. Des bébés, ça se calcule. Quand on est puissant, idéalement, on parie sur les morts. Mais il faut aussi miser sur les vies, histoire d'équilibrer les comptes. Mais ce délire de contrôle ne nous berne pas. En réalité, parler de la naissance est aussi délicat que de parler de la mort. Même quand on a soi-même donné naissance, même quand on a assisté à de nombreuses grossesses et à de nombreux accouchements, on ne prétend pas maîtriser quoi que ce soit, on n'est jamais certain ou certaine de tout comprendre. On sait seulement qu'on touche à l'inconnu, au sacré, à l'indicible. Parler de naissance bouleverse et effraie, nous révèle fragile. Ce n'est pas pour rien que les femmes enceintes obsèdent les scénaristes de films d'horreur, comme elles obsédaient les inquisiteurs. La naissance est le risque même, le risque porté, assumé par l'autre, et aussi si naturel. Or, qui prétend dominer le monde espère, bien sûr, s'élever au-dessus du biologique, des organes, de la sueur, des liquides sécrétés par le corps, des humeurs. Disions-nous à une époque, des siècles de littérature ont tenté de nous convaincre que nos actions, nos pensées, notre savoir seraient plus valables, plus justes, plus vrais s'ils se détournaient du corps. L'impossibilité de rompre avec la nature a évidemment contribué à justifier l'humiliation des femmes, leur exploitation et la méfiance à leur endroit. Dans le christianisme, Dieu fait naître les âmes. Dans la philosophie, les professeurs font naître le savoir. La naissance des corps ne faisait pas partie du récit. Les femmes la subissaient. Ça leur passait dessus, apparemment, sans discours, sans culture, sauf peut-être le devoir d'expiation auquel elles devaient se conformer, ces pécheresses. Leurs pensées, leurs connaissances ont été dévaluées pour faire place à l'autorité des médecins, des juristes, des curés. Écrire, raconter, enseigner le savoir des femmes au sujet de la naissance vous valait jusqu'à tout récemment la dangereuse étiquette de sorcière. Heureusement, les féministes ont refusé ce silence et nous font redécouvrir tradition, œuvre, science. Grâce à elles, nous ne pouvons plus prétendre aujourd'hui que naître relève uniquement d'un phénomène biologique. C'est aussi philosophique et c'est politique. Expérience universelle, la naissance reste pourtant bien discrète dans l'histoire de la grande philosophie. Reléguée à l'espace privé, elle a pourtant de profondes implications collectives. Nous passons souvent une partie de notre vie à chercher, à échapper au contexte de notre naissance. Et nous ne sommes pas égaux, égales devant la naissance, d'une famille à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un pays à l'autre. Ces inégalités grandissantes, avec la crise climatique, jette une ombre bien froide sur l'avenir. Nous n'avons jamais disposé d'autant de technologies pour faciliter ou contrôler les naissances. Pourtant, chaque jour, environ 830 femmes meurent de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. La pollution menace notre fertilité. Mais, de toute manière, vous savez, de plus en plus de jeunes renoncent à leur désir d'enfant pour des raisons écologiques. D'un côté, il faudrait lutter contre la surpopulation, et là, bien sûr, ce sont les femmes pauvres qui se trouvent condamnées, et de l'autre, on est prêt ou prête à acheter des bébés, à louer des ventres. on voudrait faire reconnaître la parentalité comme un droit. Nous avons voulu parler de naissance parce que c'est une question politique, historique, théorique. C'est un événement qui parle de lien, de relation au monde. Et que sommes-nous en dehors du lien? Quand il s'agit de contrôler le corps des femmes, la naissance semble être un sujet prioritaire. Pourtant, cet événement fondateur demeure un angle mort de nos débats politiques, de nos projets de société. À mesure que grandit l'éco-anxiété, on parle de la vie et de la reproduction différemment. La façon dont on traite la naissance a déjà changé plusieurs fois selon notre perception du monde. Elle change et changera encore. C'est à partir de ces constats et de ces interrogations que nous vous invitons à lire le présent dossier. Comment naît-on aujourd'hui? Qu'est-ce que naître au juste? Et comment serait un monde qui accorde la plus haute importance à la naissance? Quelle société pourrait en être? C'était « Venir au monde », un texte de la rédaction paru à l'hiver 2023 dans le numéro 337 de la revue Liberté.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.mcvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion, Gilbert Lepage et Serge Hamelin à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.